Et au menu de notre club cet après-midi, des chats liquides. Un voyage dans le monde de la géométrie et 40 années d'événements scientifiques avec le magazine Pour la Science. Je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, un astéroïde qui pourrait bien être une perle rare.
Oui, car pour la première fois, les astronomes pensent avoir déniché un bolide qui vient d'un autre système solaire. Le temps presse pour l'étudier. On en discute avec Lucie Maquet de l'Observatoire de Paris.
Et c'est Stéphane Ronxin qui réalise aujourd'hui ce club qui a été préparé par Chantal Le Montagnier.
La tête au carré. Le club. Avec Mathieu Vidard. Sur France Inter.
Et je salue déjà mes invités, Aline Richard, Cécile Lestienne, Jean-Louis Brahem et Marc-Antoine Fardin. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour. Bonjour.
Et bienvenue. Bonjour. Marc-Antoine Fardin, vous êtes physicien, chercheur. Vous avez reçu en septembre un Ig Nobel de physique pour votre étude sur la rhéologie des chats. Qu'est-ce que la rhéologie, pour bien comprendre ?
La rhéologie, c'est l'étude des déformations de la matière. Alors cette matière, elle peut être solide, liquide ou gaz. Et on pourra savoir un peu plus tard si les chats sont dans une catégorie ou une autre.
Voilà, et liquide en particulier, Aline Richard, ce thème a intéressé la rédaction de The Conversation.
Et comment ? Et comment nous adorons les chats liquides ou pas, à The Conversation France.
Donc vous avez demandé un article à Marc-Antoine Fardin qui va nous en parler dans un instant. Jean-Louis Brahem, vous êtes architecte, vous enseignez le dessin et la géométrie à des étudiants justement en architecture et vous publiez Voyage en géométrie, c'est aux éditions Le Pommier. On va parler plus de géométrie de l'espace, c'est ça avec vous ?
De géométrie de l'espace, de ce qu'on appelle dans, à l'école, on appelle ça la géométrie descriptive.
Oui. On peut dire la 3D aussi, non ?
C'est la 3D. Ouais. C'est la 3D. Maintenant, on appelle ça la 3D. Mais c'est la géométrie descriptive qui cherche à décrire des formes complexes.
Voilà. Et on va essayer de visualiser tout ça avec vous, ce qui est un beau pari au micro de La Tête au Carré. Et puis Cécile Lestienne, vous êtes la directrice de la rédaction du magazine Pour la Science, donc qui fête ses 40 ans. C'est l'occasion de revenir avec vous sur 4 décennies d'événements scientifiques. Autant dire que le monde a beaucoup changé quand même, autant du côté des sciences que des techniques.
Oui, je pense qu'on a oublié. On a oublié qu'à 40 ans, on n'avait pas de téléphone portable, pas de web, qu'on ne savait pas ce que c'était que le sida, tout ça. Et voilà. Donc, c'est effectivement l'occasion de se pencher sur 40 ans de beaucoup de bouleversements et tout ce qui nous reste encore à découvrir.
Ouais, avec ce numéro spécial, évidemment, qui sort pour cet anniversaire. Voilà donc pour le sommaire de ce club. Et les auditeurs nous rejoignent, bien sûr, avec les messages et les questions sur le site de La Tête au Carré. On l'a d'abord pris pour une comète au moment de sa découverte à Hawaï il y a 10 jours, mais A2017 UE est bel et bien un astéroïde, et un astéroïde rarissime puisqu'il arrive d'un autre système solaire. Et c'est une chance pour les astronomes du monde entier qui sont sur le qui-vive. Axel, on en discute avec notre invité.
Oui, on en discute avec vous, Cécile Maquet, bonjour.
C'est Lucie Maquet.
Lucie Maquet. Lucie, pardon. Vous êtes quand même astronome, directrice et non, chercheuse à l'Institut de mécanique céleste à Paris, à l'Observatoire de Paris. Alors, ça fait 10 jours qu'on l'a découvert, et ce petit bolide, déjà, il fait les gros titres. Alors, qu'est-ce qu'on sait déjà de lui maintenant ?
Alors, ce qu'on sait déjà de lui, c'est, enfin, on a fait des calculs préliminaires de son orbite. Donc, on a calculé ce qu'on appelle les éléments orbitaux, donc c'est ce qui caractérise son orbite. Et on a pu constater en fait que l'orbite avait une excentricité au-delà de 1, donc ça veut dire que l'orbite n'est pas fermée, donc c'est pas une ellipse, et c'est une hyperbole, donc il viendrait apparemment de l'espace interstellaire, donc ça veut dire d'un autre système planétaire.
Donc c'est un bolide excentrique, c'est un bolide qui vient d'ailleurs, c'est ça ?
Voilà, alors le terme bolide par contre en astronomie il est réservé surtout aux météores, donc c'est des gros météores qui pénètrent dans notre atmosphère, donc on va pas l'appeler bolide, on va dire juste que c'est un astéroïde extrasolaire.
Quelle taille fait-il ?
Alors il est plutôt petit, il fait environ moins de 200 mètres, c'est ce qui a été estimé par le Very Large Telescope au Chili pour l'instant, donc c'est vraiment un tout petit astéroïde quoi.
Et c'est vraiment la première fois qu'on détecte un objet qui vient d'ailleurs, qui vient d'un autre système solaire ?
Oui, c'est la première fois en fait. C'est la première fois qu'on trouve un objet qui a une excentricité aussi forte, qui donc nous laisse penser qu'il vient certainement d'un système extrasolaire.
Alors Lucie Maquet, expliquez-nous un petit peu comment se fait-il justement que cet objet ait pu sortir de son système solaire à lui pour venir rencontrer le nôtre ?
Alors en fait, par exemple, dans notre système solaire à nous, on a plein de petits corps qui orbitent parmi les planètes. Enfin, au sein de notre système solaire, et parfois il arrive que ces petits corps, en fait, ils frôlent les planètes géantes, notamment, c'est celles qui donnent le plus d'accélération, en fait. et ça fait une espèce de fronde gravitationnelle. Donc quand il rase une planète géante, ça peut lui donner beaucoup de vitesse, et ce qui fait qu'ensuite il a tendance à sortir de notre système planétaire. Donc c'est certainement ce qui s'est produit pour ce petit corps. En fait, il a dû être accéléré par des rencontres proches avec soit son étoile, soit des planètes qui sont dans le système d'où il vient, et qu'il l'aurait perturbé suffisamment pour qu'il soit éjecté de son système planétaire et qui transite après dans le milieu interstellaire, donc entre les étoiles, et il nous serait ensuite parvenu.
Est-ce qu'il va rester maintenant dans le système solaire ?
Alors non, parce que comme je vous ai dit, en fait, il a une orbite qui n'est pas fermée, c'est pas une ellipse. Donc en fait, il fait que passer autour de notre Soleil, et ensuite il va repartir, pas de là où il vient, mais dans une autre direction. Peut-être en direction d'un autre système planétaire, qui sait.
Est-ce qu'on aura le temps d'apprendre quelque chose supplémentaire sur son origine quand même ? On pourra l'étudier un petit peu ?
Alors en ce moment, en fait, c'est en ce moment qu'il faut l'observer, parce que en fait, comme il est petit, il est pas très brillant, il a une magnitude de 21 pour l'instant, et donc c'est une magnitude très faible qui est difficilement atteignable avec des petits télescopes. Donc là, on utilise beaucoup les gros télescopes, ils sont tous affairés sur la tâche, et le but, ça serait essayer au moins d'avoir un spectre pour savoir quelle est sa composition, mais c'est pas forcément facile, parce que comme je vous l'ai dit, il est pas très brillant, donc on essaie au moins d'avoir sa position pour raffiner un peu le calcul de son orbite, mais l'idéal, ce serait de pouvoir en faire un spectre, donc ça, c'est une affaire à suivre si on y arrive à obtenir un spectre de cet objet.
Alors, il va à quelle vitesse exactement, Lucie Maquet ?
Alors là, actuellement, je crois qu'il doit être estimé à peu près à 25 km par seconde, donc c'est vraiment très rapide pour un astéroïde. Donc c'est ce qui fait qu'il s'éloigne très vite de nous et qu'il faut l'observer là en ce moment.
Ouais, ouais.
Est-ce qu'on peut déjà estimer, donner une hypothèse sur sa composition ?
Bah pour l'instant, comme on n'a pas de spectre, non, on peut pas vraiment donner d'hypothèse sur sa composition. Actuellement, en fait, on voit qu'il n'est pas très brillant. Donc ça laisse penser que c'est vraiment un corps rocheux, surtout qu'il a été observé, comme je l'ai dit, par le Very Large Telescope, et on a vu que c'était un point ponctuel, donc ça veut dire qu'il n'éjecte pas de la poussière autour de lui, donc il n'a aucune activité cométaire. Donc c'est ce qui laisse penser que vraiment c'est de la roche, mais de là à dire de quoi est composée cette roche, là on peut pas, il faut vraiment qu'on obtienne des spectres de sa surface pour au moins avoir sa composition de surface.
Est-ce qu'il y a des chances que dans très très longtemps il repasse près du Soleil, ou alors ça c'est vraiment très peu probable ?
Ah non, ça c'est complètement impossible. Là, il va repartir, et à moins qu'il soit perturbé par miracle par une autre étoile et qu'il revienne vers nous, mais c'est complètement impossible.
Donc c'est pas tout à fait un jeu de billard quand même avec cet astéroïde. Est-ce que ça arrive que des objets de notre système solaire sortent de chez nous pour aller voir ailleurs ?
Oui, bah, y a par exemple pas mal de comètes qui viennent notamment du nuage de Oort, qui viennent dans notre système solaire intérieur, donc là où il y a les planètes telluriques, donc la Terre, Vénus, etc. Elles viennent, elles frôlent le Soleil, et après, d'après les calculs d'orbite, elles s'en vont et ne reviennent plus jamais dans notre système solaire. Donc nous, on éjecte aussi des corps dans l'espace interstellaire.
Donc on s'envoie des objets de part et d'autre, c'est ça en fait.
Voilà, c'est à peu près ça, oui.
Alors là, il est passé près de la Terre le 14 octobre, on l'a détecté le 18, ça veut dire qu'on l'a presque un peu raté, parce qu'on aurait pu l'étudier de près pendant 4 jours.
Oui, bah, même bien plus, hein, parce qu'en fait, il est passé à côté du Soleil le 9 septembre, donc ça fait un moment qu'il est dans l'environnement, je dirais pas trop loin de la Terre, où on pourrait l'observer. Mais le problème, c'est que c'est un tout petit objet, donc il faut vraiment tomber dessus, en fait, pour pouvoir le détecter, quoi.
Ouais. Est-ce que ça va nous servir d'exemple ? On va être plus attentif pour les prochains qui arriveraient ?
Ah bah, là, actuellement, en fait, on développe ce qu'on appelle des grands relevés. Donc, c'est des télescopes qui observent des grosses portions du ciel pendant une nuit. Et on est de plus en plus, on fait de plus en plus attention à tous ces petits corps. Parce que forcément, les gros, on en a déjà détecté beaucoup. Donc, maintenant, c'est vraiment ces petits corps qui nous intéressent. Et notamment, des petits corps qui passent très vite comme ça, c'est vraiment intéressant, parce que c'est eux qui sont susceptibles de venir d'ailleurs. Quoi.
Mais comment, Lucie Maquet, on est capable de dire, en voyant ce petit objet, qu'il vient d'ailleurs ? C'est quoi sa signature, finalement ?
En fait, ce qui fait vraiment qu'on est convaincu qu'il viendrait d'ailleurs, c'est vraiment les paramètres de son orbite. Donc les paramètres de son orbite, c'est, comme je vous l'ai dit, l'excentricité, c'est ce qui caractérise la forme de son orbite. Et il a une forme d'orbite qui nous fait penser qu'il ne peut pas venir du système solaire, hein, parce qu'elle est vraiment très excentrique, donc c'est pas du tout caractéristique d'un objet du système solaire. En plus de ça, son orbite est très inclinée, donc on pense vraiment qu'il ne peut pas venir de notre système solaire, mais qu'il vient bien du système interstellaire.
Pourquoi est-ce qu'il va beaucoup plus vite que les autres astéroïdes qu'on connaît dans le système solaire ?
Parce que justement, il a été éjecté par un autre système, et du coup, il a beaucoup de vitesse, puisqu'il a été envoyé avec une espèce de fronde gravitationnelle vers nous, donc il a beaucoup de vitesse, et il acquiert encore de la vitesse en passant proche de notre étoile, etc. Quoi. C'est un peu comme le principe d'envoyer des sondes spatiales aux confins de notre système solaire, on se sert de l'accélération gravitationnelle des planètes pour envoyer les sondes spatiales, et bien lui, il a subi un peu le même processus.
Ouais. Et on lui a donné un petit nom, donc A2017 UE, c'est ça ?
U1, ouais.
Ça sert à quoi ? Alors, ça dit quoi, ce nom de code ?
Alors, en fait, par exemple, sur les comètes, bon, là, avant, il avait été appelé C2017U1, parce qu'on pensait que c'était une comète. Mm-hmm. Donc, le C, ça veut dire que c'est pas une comète périodique. Donc là, le A, ça va vouloir dire qu'il est un astéroïde, si vous voulez. Le 2017, c'est son année de découverte. Le U, ça caractérise la portion du mois à laquelle il a été découvert. Donc la deuxième moitié du mois d'octobre.
Ouais.
Et le 1, c'est le premier astéroïde découvert pendant la deuxième moitié du mois d'octobre.
Bon, tout a un sens, voilà. Alors, évidemment, de la part des scientifiques, tout est extrêmement précis. Voilà. En tout cas, on a vu, c'est vrai, sur les réseaux depuis quelques jours, une certaine excitation face à cet objet, parce que c'est évidemment sa singularité, cette provenance donc du milieu interstellaire qui a fait tout le monde un petit peu s'agiter. Et merci de nous en avoir parlé aujourd'hui, Lucie Maquet. Vous êtes astronome donc à l'Institut de mécanique céleste à Paris. Merci à vous, Axel. On se retrouve dans une semaine, après les vacances. Merci beaucoup. Allez, en bref. Dans le reste de l'actualité scientifique, des chercheurs américains qui améliorent la technique CRISPR d'édition de l'ADN, les fameux ciseaux moléculaires. Deux publications cette semaine détaillent des techniques d'édition de l'ADN et de l'ARN, encore plus précises qu'auparavant. Appelées éditeurs de base, ces nouvelles méthodes permettent de remplacer précisément un seul maillon de la longue chaîne de l'ADN. Un pas de plus dans la précision, puisque la célèbre méthode CRISPR-Cas9 permettait la modification d'une séquence de ces mêmes bases. La modification, là, est plus fiable que CRISPR, avec un taux d'erreur inférieur à 1%. Les bactéries ont un sens du toucher, bien qu'elles ne possèdent pas à proprement parler d'organes sensoriels, ni même de nerfs. Les bactéries sont capables de réagir rapidement en fonction des surfaces qu'elles rencontrent. Un groupe de chercheurs suisses montre aujourd'hui que les colobactères, un groupe de bactéries intestinales capables de nager à l'aide de longs flagelles, sont aussi capables de reconnaître différentes surfaces simplement par le toucher, et ce en moins d'une seconde. Cette découverte devrait permettre d'imaginer d'autres recherches sur les processus d'infection liés au contact et aux effets de surface. Et puis pour terminer, comment le moustique repu de sang s'échappe-t-il de votre peau sans que vous vous en aperceviez ? Eh bien, cette drôle de question fait l'objet d'une publication néerlandaise. Les chercheurs ont remarqué que le décollage des moustiques après un repas est très différent de celui des autres insectes. La plupart des mouches et autres guêpes poussent fort sur leurs pattes avant de battre les ailes frénétiquement une fois dans les airs. Eh bien, le moustique lui fait exactement l'inverse. Il bat des ailes de plus en plus vite, jusqu'à 600 fois par seconde pour décoller en douceur de votre peau. Il n'exerce pratiquement aucune poussée, justement. Et bien sûr, il fait cela pour ne pas attirer votre attention et risquer sa vie. Allez, le club dans un instant.
Je ne suis qu'un trucage humain en voyage vers l'Andalousie, le pays où les paysages se dessinent comme des spaghettis western. On raconte que aux États-Unis une vallée morte de jalousie de l'Andalousie et de ses spaghettis western. Oh, Andalousie, le pays où les femmes regardent droit dans les yeux le soleil sans lunettes ni autre trucage. Droit dans les yeux, je ne suis qu'un trucage humain qui voudrait devenir un homme. Sans trucage à mon âge, le truc parfait serait d'être considéré comme un homme, un vrai, un grand, un être humain de mon âge.
Un homme sans trucage.
Je ne suis qu'un trucage humain, j'ai croisé sur mon chemin un humain sans trucage qui rêvait, cela dit, jour et nuit, d'en devenir un. Pourtant c'est lui qui me donne encore aujourd'hui la force et l'envie de rester parmi les humains aujourd'hui. Oh, encore et encore j'ai dit merci à celui et ceux qui comme lui lacèrent les cieux de mille feux sans artif, puisqu'il se glisse dans un livre, un regard vous tape sur l'épaule pour vous dire vas-y.
Andalusia, Anda, Anda, Andalusia, Anda, Anda, Andalusia, Anda, Anda, Andalusia, Anda, Anda.
Je ne suis qu'un trucage humain qui voudrait devenir un homme. Sans trucage à mon âge, le truc parfait serait d'être considéré comme un homme. Un vrai, un grand, un être humain de mon âge. Un humain sans trucage.
Voilà l'homme sans trucage, Dionysos avec Rochefort.
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
Et dans le club cet après-midi des chats liquides, nous allons voyager dans le monde de la géométrie et puis nous parcourons 40 années d'événements scientifiques avec le magazine Pour la Science qui fête son anniversaire et mes invités qui sont ici autour du micro pour répondre à vos messages sur le site de l'émission. Et donc cette question pour commencer, les chats sont-ils liquides? Marc-Antoine Fardin, vous êtes physicien chercheur à l'Institut Jacques Monod et vous avez reçu le prix Ig Nobel de physique 2017 pour votre étude sur la rhéologie des chats. Et Aline Richard, vous avez demandé illico presto à Marc-Antoine Fardin d'écrire un article sur la question pour The Conversation France. C'est quand même prestigieux ce prix Ig Nobel, hein. On était très fiers que ce jeune homme représente la France.
Absolument, on est ravis. On est absolument ravis. Mais nous d'ailleurs, on a fait sur The Conversation, on a fait un papier d'un chercheur sur les horloges moléculaires, hein, ouais, qui ont été récompensés.
Par un vrai Nobel, un vrai, on va dire. Ouais, officiel.
Voilà, on
suédois.
Voilà, suédois. Donc sur cette affaire donc en physiomédecine. Et puis on a l'honneur d'accueillir dans nos colonnes Marc-Antoine pour l'Ig Nobel. C'est quand même plus, c'est le off si vous voulez, c'est le off et sur les chats liquides.
C'est ça.
Qui nous passionne.
Voilà, et ça devait marcher à coup sûr. Marc-Antoine Fardin, un petit mot quand même sur cette cérémonie des Ig Nobel à l'initiative de l'université Harvard aux États-Unis. Et l'humour des Américains, quand même, qui se reflète aussi dans ce.
Alors,
dans
c'est cette assez cérémonie. C'est éclectique. Il y a du scientifique, mais il y a aussi des artistes qui participent à la cérémonie. Et je crois que la cérémonie a lieu depuis 1991 et maintenant ils sont bien rodés.
C'est vrai.
Il y a des vrais prix Nobel, entre guillemets,
qui viennent
aussi à la cérémonie et participent. Donc c'est,
alors, vous étiez sur place, justement, puisque vous saviez évidemment que vous alliez recevoir ce prix. C'est quoi l'ambiance alors dans cette salle d'Harvard?
Alors c'est un très bel endroit déjà. Moi j'étais jamais, pourtant j'ai habité dans la région, mais j'étais jamais allé dans cette salle. Et c'est qu'il y a un mix entre des représentations théâtrales, il y a une espèce d'opéra qui est construit chaque année et qui est lié au thème qui est choisi pour la cérémonie de l'année. Et puis il y a les gens évidemment qui reçoivent le prix, qui viennent de partout dans le monde. Et tout un entourage qui vient de je sais pas trop où, mais qui met l'ambiance.
Et une ambiance survoltée, justement.
Exactement.
On va écouter précisément cette cérémonie, enfin le passage où vous allez monter sur scène. C'était le 14 septembre dernier à l'université d'Harvard.
Et voici la remise des prix des Ig Nobel. Le chercheur français a remporté l'Ig Nobel de physique après s'être servi de formules mathématiques pour déterminer si les chats étaient liquides ou solides.
Alors c'est peut-être cool de refuser un prix Nobel, mais ça se fait pas, décliner un Ig Nobel. Donc, les chats sont-ils liquides? Apparemment, ouais.
Voilà, vous avez fait beaucoup rire la salle, hein, Marc-Antoine Fardin.
Alors, je croyais que c'était moi qui faisais rire, mais en fait, c'était les images qui étaient derrière moi.
Ah, c'est vrai, oui, parce que les images, on l'a justement sur le site de The Conversation. On peut le voir en lien sur la tête au carré où elle est directement sur le site. On voit un chat donc dans un bocal en plastique transparent et qui a parfaitement épousé la forme justement de ce bocal. Et c'est tout l'objet de votre très sérieuse étude. Hein.
C'est ça, c'est ça. Donc, les images, j'ai pas personnellement fait d'expérience sur les chats, heureusement. Mais j'ai récupéré les images sur Internet et tout le monde peut les trouver. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est juste utiliser ces images pour illustrer des concepts réels, pour le coup, enfin, je veux dire sérieux, en tout cas qui sont traités par des gens.
Qu'est-ce qu'on se pose alors comme question sérieuse ? La question du liquide déjà, cette notion ?
Bah, c'est ça, la question de savoir dans quel état est un matériau est pas forcément évidente à résoudre. Donc c'est ça la question que j'illustre avec les chats, mais que les gens essayent de traiter avec plein de types de matériaux différents.
Ouais. Et comment vous est venue l'idée justement d'utiliser le chat ? C'était un bon objet de science au départ ?
L'idée vraiment, sincèrement, est venue d'Internet. Hein. C'est un article, enfin même plusieurs articles, je ne sais pas exactement qui est à la source de ça, mais il y a eu 5-6 ans, c'est apparu sur le web. Et donc du coup, j'ai repris la question que j'ai trouvée un petit peu paradoxale, mais qui m'a permis de traiter des états de la matière et dans les champs en particulier.
Ouais. Avec une question peut-être de Cécile Lestienne.
Oui, mais justement, mais quand même, pourquoi le chat ? Est-ce que c'est juste pour poster des lolcats sur Internet ou pourquoi
et faire
pas
du buzz ?
Le serpent, le poisson rouge, le chien.
Ouais, alors c'est sûr, le chat est particulièrement populaire sur le web. Et puis moi, personnellement, j'adore les chats aussi. Et, de par mon expérience, le temps que j'ai pu passer avec les chats, j'ai pu remarquer que ils étaient pas complètement solides et qu'ils avaient
ils pouvaient épouser les contenants.
Voilà, ils pouvaient épouser les contenants, ce qui est la définition classique d'un liquide, c'est de pouvoir s'adapter.
Voilà une observation scientifique.
Mais c'est ça, absolument.
Mais c'est absolument.
D'où cette question intéressante. Le chat est-il liquide ?
Oui, et alors on explique dans l'article paru sur Conversation que il y a un facteur clé qui s'appelle le temps de relaxation. Alors, rien que le mot est finalement un peu ambigu parce que relaxation, ça évoque bien d'autres choses. Et donc pourquoi ça s'appelle comme ça et qu'est-ce que c'est d'abord ? Racontez-nous qu'est-ce que c'est que la relaxation.
Alors le temps de relaxation, c'est vraiment le terme. Enfin, je veux dire, officiel pour décrire le temps nécessaire à un matériau pour adapter sa forme à son contenant. Donc, si c'est ça qu'on est en train d'étudier, et c'est ça qui caractérise un liquide en fin de compte, c'est de pouvoir s'adapter à son contenant, mais c'est une action et nécessairement, du coup, ça va prendre un certain temps pour pouvoir se dérouler. Et ce temps, c'est le temps de relaxation. Alors après, ce temps, il peut avoir des origines diverses et variées.
Ouais, mais c'est évidemment cette souplesse, cette relaxation qui fait que le chat est capable d'épouser aussi ses formes de contenant.
C'est ça, c'est le temps qui lui permet. Finalement, c'est pas mal choisi. Je ne sais pas qui est à l'origine de ce mot, le temps de relaxation. Je pense que ça fait presque 100 ans que ça traîne dans la littérature. Mais dans le cas des chats et dans d'autres cas, c'est bien choisi.
Alors, racontez-nous aussi ce que c'est que le nombre de Déborah.
Alors, le nombre de Déborah, c'est là où on commence à rentrer dans les mathématiques qui sont associées à l'article. Mais c'est des mathématiques qui sont pas très compliquées, dans le sens où tout ce que je fais, c'est une division entre deux nombres, deux quantités. La première quantité, c'est le temps de relaxation, donc qui se mesure en secondes, en minutes, en heures, en fonction du cas. Et la deuxième quantité, c'est simplement le temps de l'expérience. Alors, la plupart du temps, c'est juste le temps qu'on est prêt à attendre pour voir se dérouler cette modification de la forme de l'objet. Donc si on met un chat dans un contenant, ce sera le temps qu'on laisse s'écouler et on fait la division de ces deux temps et ça nous donne un nombre qu'on appelle le nombre de Déborah.
Ouais. Et cette observation, elle peut évidemment changer selon l'échelle du temps. C'est-à-dire que si on prend un temps géologique, on peut avoir finalement le même résultat, mais qu'on ne verra pas à l'œil nu parce que ça se déroule sur des temps très importants.
Tout est liquide.
Ouais, ouais.
Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que nous, on est liquide ?
Donc c'est ça, c'est un exemple de ce principe général qui est que si on attend suffisamment longtemps, tout va adapter sa forme.
C'est ça ?
Jean Libraem, est-ce que ça inspire justement l'architecte que vous êtes, de voir ces formes de chats comme ça, très particuliers ?
Liquide.
Et cubiques là, en l'occurrence, parce qu'ils sont vraiment capables de devenir absolument n'importe quoi.
Oui, bah, c'est une maison. Dans une maison, une maison elle est pleine. Mmh. Elle est pleine, mais pleine.
Ouais.
Avec des gens, des chats, des chiens, de l'air, de la vapeur, de la fumée de cuisine, de la lumière. Elle est pleine, elle est bourrée. Et elle est strictement délimitée dans l'espace.
C'est ça.
Non, non, il y a une liquidité aussi dans l'habitat.
Ouais. Hein. Et donc on voit bien que le stress, c'est la contrainte, au fond. Hein.
C'est ça.
Ce qui empêche aussi d'épouser ces formes.
Nous, en français, on a retenu de stress que la signification émotionnelle. Mais en fait, en anglais, ça veut dire plus généralement contrainte et en particulier la contrainte mécanique. Si je pousse ma main sur la table, j'applique un stress si j'utilise un peu un anglicisme.
Alors du coup, la réponse à cette question que vous posiez, le chat est-il liquide, c'est quoi alors concrètement ?
Donc la réponse, c'est ça dépend. Donc ça dépend combien de temps on est prêt à attendre.
Oui.
Donc ça, c'est l'aspect temps de l'expérience. Plus le temps de l'expérience est long, plus l'objet va avoir tendance à apparaître liquide. Et puis ça dépend aussi du chat. Si le chat est jeune ou si le chat est vieux, il ne va pas avoir le même temps de relaxation.
Mais on peut trouver des chats liquides.
On peut trouver des chats liquides, mais il ne faut pas trop les perturber parce que sinon ils ont tendance à plus.
C'est ça, on les laisse faire, ils savent très bien faire eux-mêmes d'ailleurs.
Exactement.
Et si on regarde les photos qui sont sur le web, il y a des exemples multiples de formes et de contorsions félines possibles. Qu'est-ce que vous allez faire après ces travaux, Marc-Antoine Farda?
Ah ben là, c'est
c'était quelque chose de très marginal. Oui, c'est ça, vous êtes à l'apogée de votre carrière là déjà, avec la Ligue Nobel en plus.
La Ligue Nobel.
Ça peut servir à quoi dans ce domaine de la physique que vous étudiez?
C'était marginal en sens où ça m'a servi pour un petit peu populariser certaines idées qu'on traite en rhéologie, donc l'étude des déformations. Et après, moi, dans le passé, j'ai étudié d'autres matériaux un peu étranges parce qu'en rhéologie, on se passionne pour ces matériaux qui rentrent pas trop dans les cases.
Mmh.
Et aujourd'hui, je fais partie d'une équipe qui s'intéresse à la rhéologie et à la déformation et à la mécanique des tissus, donc d'assemblage de cellules humaines.
Ouais. Et donc, ça peut servir à quoi dans le domaine des applications pour y voir un petit peu plus clair?
Dans le domaine des applications, ça peut servir à essayer de mieux comprendre, par exemple, comment se déroule une cicatrisation. Parce qu'une cicatrisation, c'est ça. Il faut que les cellules deviennent plus liquides temporairement pour pouvoir reboucher le trou et ensuite repassent dans leur état plutôt solide pour pas s'écouler quand on leur pousse dessus.
Voilà, donc la rhéologie des chats, ça n'est pas fait que pour faire du buzz sur Internet, ça a aussi des projets de recherche tout à fait sérieux derrière, et on peut retrouver cet article donc sur theconversation.com. Aline Richard, merci beaucoup. Dans un instant, on part faire un voyage en géométrie. How new, dame, new, how could you go? Twisted sick, but I'm on the floor. Come rescue me. Tears in blood, but oh how they flow. Reasons bleeding, tell me no more. Get into me. I should have gave the leash to your soul, but now I've lost control. And then you wander aimlessly. For you that freedom's your goal, but I'm telling you, freedom is the end of me. Ain't it enough that you swallow them whole? And at the Your freedom is the end of me. C'est Mélanie de Biasio sur France Inter.
La tête au carré, le club.
Dans notre club cet après-midi, il y a un architecte qui s'appelle Jean-Louis Brahem. Vous enseignez le dessin et la géométrie à des étudiants en architecture et vous publiez Voyage en géométrie, la 3D sac au dos. C'est aux éditions Le Pommier et ce sont, paraît-il, les dessins d'une jeune fille qui s'appelle Alice qui vous ont inspiré ce livre, Jean-Louis Brahem. C'est vrai ça ?
Alicia.
Alicia, pardon. Qui est-elle hein ?
Alicia, c'est la vraie jeune fille qui a fait les dessins. Mais dans mon histoire, j'ai juste changé son prénom et elle est devenue Alice.
Voilà.
Mais elle le fait très bien.
Hein. Et elle est accompagnée d'un professeur qui pourrait être vous d'ailleurs en l'occurrence. Mmh. Hein. Et alors cette Alicia de 13 ans, elle faisait des dessins, c'est ça ? Et ça vous a donné l'idée de cet ouvrage hein ?
Cette gamine, elle faisait des dessins, mais là où il fallait pas. C'est-à-dire, elle faisait des dessins sur ses cahiers de devoirs.
C'était le guide de graines de l'architecture, déjà.
Elle arrêtait pas. Et ses parents ont décidé de canaliser un peu tout ça.
Ouais.
Et donc, m'ont demandé de la remettre un peu dans le droit chemin.
Ah, c'est vrai, mais vous y êtes ravi, vous, parce que vous avez tout de suite perçu son talent, parce qu'elle avait vraiment des dons particuliers. Ouais.
Parce que, oui, moi, au début, je pensais que j'allais lui apprendre les bases de du dessin un peu géométrique.
Ouais.
Et puis, je voyais bien que les petits oiseaux, les écureuils, tout ça, ça continuait. Des princesses, les papillons, ça n'arrêtait pas, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, elle racontait quelque chose. Elle était toujours dans le conte.
Ouais.
Et ça, c'est merveilleux.
Et surtout pour raconter une discipline comme la géométrie, parce que vous vous êtes dit, tiens, pour emmener les gens dans ma discipline, qui est quand même une des plus compliquées à expliquer probablement,
c'est sûr,
y a ce support du visuel et des dessins de cette jeune fille qui pourraient me servir. Et là, hop, tout de suite, vous avez une aventure qui est née dans votre esprit.
Exactement. J'ai recyclé tous ces dessins qui étaient faits, face à face, sur une table, et j'ai inventé des contextes, des circonstances,
des villes, par exemple,
des villes, des gens que cette jeune fille rencontrait et qui lui inspirait ses dessins.
Ouais. Donc c'est une occasion.
Donc j'ai fait la démarche à l'envers.
Ouais, ouais. Et c'est donc une occasion pour nous de découvrir ce qu'est la 3D dans l'œil aussi de l'architecte et du géomètre.
Exactement.
Hein, c'est ça.
Exactement. C'est la façon la plus simple et la plus gratifiante d'arriver vers le dessin, c'est de le relief. Le relief, c'est-à-dire ce qui est loin, ce qui est près, ce qui est, c'est là aussi la latéralisation. Hein, c'est à côté, au-dessus, en dessous, derrière, devant, et tout ça, c'est l'espace, c'est la conquête. Ouais. La conquête de l'espace.
Ah oui, ça c'est beau.
Allez.
Voilà, ça sera le deuxième tome, ça finalement. C'est l'idée pour le deuxième voyage autour de la
géométrie. La gamine, elle était bien dans l'espace, et c'est ça qui est bon. Voilà.
Donc quand on a une bonne maîtrise de l'espace, on peut devenir un bon architecte, c'est
ça ? On peut devenir un bon architecte, on peut raconter, pas architecte forcément, parce que il n'y a pas que les architectes qui dessinent, hein. Il y a même des architectes, des très bons architectes qui dessinent pas du tout, hein. Donc le dessin c'est une écriture, je raconte quelque chose que j'ai vu. Quelque chose auquel je pense, quelque chose que je vois.
Est-ce que la géométrie, justement, de votre profession, et la grammaire, on pourrait dire, de la géométrie, a beaucoup changé, ou est-ce que c'est exactement la même que cette géométrie qu'utilisait...
Non, ça ne change pas.
Ouais. Donc on reste sur les mêmes bases.
Heureusement, non.
Ouais.
Mais j'espère que ça ne changera pas, d'ailleurs.
Oui, mais ça veut dire que c'est quand même très solide, puisque ça passe les millénaires sans jamais bouger.
Ah bah oui, heureusement.
Ouais.
Ah oui, oui. Et justement, dans mon livre, il y a un gros malheur, c'est qu'il y a quelqu'un qui va contester tout ça.
C'est ça. Et qui va contester le langage et la logique.
Qui va contester la logique.
Et la logique de la géométrie. Et on n'aime pas ça en géométrie. Voilà. Hein, parce que c'est un domaine où les lignes aiment bien reposer absolument sur des bases saines.
Ah oui, non, faut pas toucher.
On va écouter la nouvelle génération qui s'empare également de votre discipline pour l'enseigner sur YouTube avec des tutoriels. C'est le cas de Léo, on va l'écouter.
Bonjour à tous, c'est Léo. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble quelques bases très simples de perspective. Donc vous allez voir que même si le mot perspective peut paraître effrayant pour certains, ce sont des choses assez basiques à réaliser techniquement, mais qui vous seront très utiles à chaque fois que vous voudrez dessiner un bâtiment dans l'espace, que ce soit votre maison, un immeuble ou une ville, un panorama de ville en perspective, c'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel. C'est parti! Première étape, je vais commencer donc par tracer une ligne d'horizon.
Sur cette ligne d'horizon, je vais tracer un premier...
Voilà. Et Léo déroule sur Internet pour donner ses cours. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'enseignement? C'est pas mal parce que là, pour le coup, aussi, on a le visuel grâce à Internet. Donc, on a un bon vecteur de diffusion. Là.
Oui, c'est pas mal. Il manque l'essentiel, quoi. Il manque le contact. Il manque la correction, le... Moi, avec cette jeune fille, je me permettais quand même de, non pas sur ses dessins, mais sur moi, mes feuilles, de la corriger. Et puis elle posait des questions, elle disait j'y arrive pas. Alors moi, je lui indique ça. Enfin bon, c'est du luxe. Hein.
Lui,
c'est bon, c'est du drive, quoi. C'est du supermercado, quoi.
Ouais. On sent la petite critique poindre quand même
derrière j'ai rien contre. J'ai rien contre, mais c'est low cost, quoi. C'est sûr.
Cubeville, racontez-nous un petit peu ce qu'est Cubeville dans ce voyage en géométrie.
Cubeville, c'est la première ville, quand on rentre en géométrie, le pays de la géométrie. Je rappelle que la géométrie, ça fait partie quand même de l'Union mathématique, l'UM.
Avec quatre États membres, c'est ça?
Quatre États membres,
quatre
oui.
Quatre piliers, on va dire.
Quatre États membres, oui. Il y a donc la géométrie donc qu'on va visiter. L'arithmétique est un pays... Bon, c'est les assurances, c'est des banques, c'est un peu moins intéressant, mais pourquoi pas. Il y a l'algèbre, alors qui est un pays très... Il y a beaucoup de brouillard, c'est surtout les brouillards là, en algèbre, les brouillards, le paysage un peu tourmenté.
Ouais. C'est marrant votre interprétation, hein. c'est intéressant
d'entendre.
Et
puis, il y a la logique, qui est un pays, il faut dire, chiant.
Mm-hmm.
Un peu chiant.
Ouais.
La géométrie, elle, est beaucoup plus visuelle. Il y a des formes, il y a du relief, il y a de l'espace. On y est beaucoup mieux. Et donc, Cubeville, c'est la première ville quand on a passé la frontière.
Oui.
C'est
la première. Il y a des formalités à la douane.
C'est la première ville. Donc, c'est la ville des 10 000 angles droits.
Ouais.
La ville aux 10 000 angles droits.
C'est ça. Et là, on entre dans ce pays tout à fait particulier.
C'est ça.
Et on commence
après,
avec le voyage.
On ira voir Oblikaya, où ça, c'est les obliques. Et puis après,
c'est ça.
Rond les rouleaux. Ça.
Ouais. Il y a des villes chinoises aussi. Hein, au cours de ce voyage, il y a Sinueux.
Hein,
c'est en Chine, qui est jumelé avec Tordu sur Ondule.
Oui, alors Sinueux, c'est une ville Chine populaire qui est... jumelé avec Tordu sur Ondule.
Voilà.
Ondule, c'est une rivière et Tordu, c'est une ville assez compliquée. Puis on s'y perd assez facilement. Les gens, quand on demande son chemin, c'est des explications à n'en plus finir. Voilà, c'est ça Tordu sur Ondule. Tordu sur Ondule.
Cécile Lestienne.
Juste un petit commentaire. C'est encore un exemple du fait que on croit que les mathématiques sont froides, rationnelles et tristes. Mais oui, c'est très poétique.
Ah oui, mais là, on s'embarque vraiment. Et puis, on a du visuel aussi, voilà. Hein, parce que vous donnez à voir des choses.
Il est très beau à voir.
C'était vraiment le but aussi de ce voyage.
De l'image.
Absolument. Ouais. Pourquoi le cube? Parce qu'évidemment, nous, ça nous intéresse. Ici, il y a la tête au carré. Pourquoi le cube et le carré, c'est si important en géométrie?
Le cube, c'est la forme de base. C'est la forme de base. D'ailleurs, vous m'avez demandé d'en dessiner une.
Oui, qu'on a mis sur la page Facebook de l'émission.
Vous avez raison.
Avec un rêve de cube que vous avez dessiné. journaux.
Vous avez raison. C'est la forme la plus simple, mais c'est aussi une forme un peu lamentable, c'est vrai, un peu... qu'est-ce que vous voulez dire? Mais dès que qu'on commence à mettre un cube au-dessus d'un autre...
Ah, il se passe des choses.
Dès qu'on commence à retirer un petit cube du gros cube, dès qu'on commence à... Là, on commence déjà un peu à s'amuser.
Ouais.
Et puis l'angle droit, ouais. Notre monde fourmille d'angle droit. C'est comme ça.
Ouais. Ce qui fait qu'en tant qu'architecte... Vous aimez, vous, créer à partir de certaines formes en particulier? C'est-à-dire qu'un cube, ça vous ennuie, mais dès qu'on vous demande d'en mettre deux ou trois, ça y est, vous commencez à frétiller ou pas?
Non, mais ça se passe pas comme ça. On vous demande pas, faites-moi un cube ou faites-moi trois cubes.
Vous pouvez avoir une maison en cube.
Le cube, c'est vrai que c'est simple parce que c'est toujours plus simple de faire un angle droit à tout point de vue, hein, et de faire une toiture plate.
Oui.
C'est plus simple qu'une toiture en pente. Voilà. Un mur vertical, c'est plus simple à construire qu'un mur en pente. Vous voyez, voilà, c'est tout. Mais le cube, c'est ce qu'on peut dire, c'est que le cube est à la géométrie ce que être et avoir est à la syntaxe.
Eh bien, on va finir avec
voilà,
ça.
Voilà, il faut commencer par ça, et puis c'est tout.
Et on va finir par ça aussi. Avec ce voyage en géométrie, sous-titré La 3D sac au dos. Et c'est aux éditions Le Pommier, avec beaucoup de dessins, justement, et de visuels.
Dessins de voyage.
Pour comprendre exactement cette discipline qu'est la géométrie et ce pilier des mathématiques. Jean-Louis Brême, vous restez avec nous. Dans un instant, nous fêtons les 40 ans du magazine Pour la Science.
Ta famille, tu tues à l'aide d'une aiguille, le beau et le laid, toi tu sais ce que tu veux, ce qui te plaît. Paris c'est trop petit pour toi, tu préfères partir à dos doigts, parcourir de ta langue les corps des anges de la drague à colore. Ta résidence secondaire, et tu ne sais où sur la terre, entre jet lag et gueule de bois, tu te souviens de lui parfois. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Tes yeux sont des lasers broyeurs, tu préfères jouer les agresseurs, t'adores faire l'amour à quatre pattes, tu es né en 84. Regarde sur l'écran, tu fiches tes rides dans le temps, tu t'éparpilles dans les airs, grâce à lui, grâce à ton grand frère. Toutes ces photos de ta vie, tu les regardes dans ton lit, elles ne te laissent jamais seul, ton image sera ton linceul. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Sais-tu vraiment qui tu es? Tu as déjà vomi l'Asie, les Amériques sont tes amis. Quand tu nous parles de l'Europe, tu dis d'elle qu'elle est une salope. Tu aimes adorer ceux qui mentent, le passé tu le réinventes. Ta honte tu ne la racontes pas, ton histoire tu ne la connais pas. Tu es l'enfant de ta patrie, tu aimes salir ta dynastie, choisir un chemin déjà tracé, marcher loin des routes enneigées. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Le ciel, tu le visites souvent. Entre les dents, tu voudrais partir sur la mer comme les marins de Fassbinder, toujours noyés dans tes contrées. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? tu es.
Et c'est la voix du Québécois Pierre Lapointe. Sais-tu vraiment qui tu es ?
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
Dernier sujet avec les 40 ans du magazine Pour la Science. Cécile Lestienne, vous en êtes la directrice de la rédaction et vous n'étiez pas à la tête du magazine il y a 40 ans.
Non.
Quelle est l'identité de votre revue par rapport à cette presse scientifique qu'on peut trouver aujourd'hui ?
Oh, c'était effectivement.
Chacun devant se démarquer, hein.
Absolument, ouais. Parce que le marché est nombreux, mais ce qui est intéressant, ça veut dire que les Français s'intéressent à la science. Il y a c'est effectivement vrai. Pas mal de magazines qui parlent ouais. de science.
Alors, quel est le public là, pour la science?
Pour le public, on s'adresse à un public qui s'intéresse aux sciences comme les autres, mais à un certain niveau d'expertise qui est, ce n'est pas pour les enfants de sixième, mais plutôt ouais. pour les élèves de terminale, les étudiants, voire même les chercheurs, les médecins, ouais. les ingénieurs.
Avec des rubriques d'ailleurs qui sont costauds pour certaines, hein. On parlait des mathématiques tout à l'heure,
oui, c'est un bon exemple. La rubrique de Jean-Luc Delahaye
qui a énormément de succès.
Absolument. Il y a beaucoup de lecteurs qui, je pense, ne nous achètent que pour cette rubrique, tous les fans de mathématiques. Il y a très peu de journaux qui font des rubriques de mathématiques, parce qu'il est vrai que c'est difficile à vulgariser.
Ouais. Alors quand on lit justement la couverture de Pour la Science, on dit édition française de Scientific American. Ça veut dire quoi ça ? C'est juste un magazine traduit en français ?
Non, je ne dirais pas ça du tout. On fait partie de la constellation de Scientific American. Donc il y a Scientific American, mais il y a aussi Spectrum en Allemagne. Il y a des éditions en Espagne, en Italie, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Et effectivement, ça nous permet de publier des papiers qui ont été écrits dans d'autres éditions par des chercheurs de tous les pays. Et la science est internationale.
Mmh. Donc vous faites des traductions de certains articles. Et puis le reste, d'autres. Ce sont des contributions Absolument. Purement françaises. Hein. Et c'est ce qui fait justement le caractère de Pour la Science. Aline Richard, parce que longtemps vous avez été à la tête de la rédaction de la recherche. Comment se porte la presse scientifique aujourd'hui ? Puisque maintenant, vous êtes sur le web, donc c'était un choix aussi de quitter la presse papier pour aller sur le numérique.
Pour, vivre de nouvelles aventures journalistiques. Je crois que c'est ce que dit Cécile. Hein, je crois qu'il y a une appétence, il y a un intérêt. Bon, maintenant, après la presse, elle est la presse, hein, que ce soit en science ou ailleurs, c'est jamais très facile. Mais je crois qu'il faut absolument continuer à donner de l'information scientifique, à en donner de façon de façon diverse, variée, indépendante, parce que sinon, on va juste se retrouver avec juste des communiquer, voyez ce que je veux dire. C'est très important.
Oui, Cécile Lestienne.
Oui, il faut tous les canaux, sur tous les canaux. D'ailleurs, nous avons aussi un site web où on met beaucoup de choses en ligne pour compléter.
Mais ça paraît indispensable aujourd'hui, non ? Avec la rapidité justement des publications, tout ce qui tombe quotidiennement, on ne peut pas se contenter d'avoir un magazine papier où rapidement les infos deviennent un petit peu obsolètes quand même, non ?
En science, elles ne deviennent pas obsolètes si vite que ça quand même, il ne faut pas exagérer par rapport à la formation générale. Après, vous avez des journaux comme Le Canard Enchaîné, qui n'est pas du tout dans le domaine des sciences, certes, mais qui lui continue à c'est faire vrai. Le pari du no web.
C'est vrai.
Mais c'est vrai que c'est une exception.
Ouais. Alors comment on prépare un numéro anniversaire comme ça, 1977-2017, 40 ans de découverte avec des grandes signatures, hein, Cédric Vidani, Étienne Klein, Jean-Claude Amezen, Valérie Masson-Delmotte ou Gérald Bronner, hein, pour avoir une vision un peu de ces disciplines. Vous avez vraiment pioché dans les événements majeurs de cette dernière décennie ?
Absolument, enfin, c'était assez simple. Effectivement, 40 ans, c'est un âge assez respectable et pourtant pas canonique. Mmh. Et effectivement, quand on s'est penché un peu sur ce qui était passé dans les 40 dernières années, je crois qu'on avait oublié qu'effectivement, il y a 40 ans, on n'avait pas de web, pas de téléphone portable, que personne ne savait ce qu'était l'épidémie de sida, et qu'on n'avait pas découvert d'exoplanètes, enfin, que tout ça qui est aujourd'hui au cœur de ce qu'on découvre aujourd'hui.
1977, donc l'année de la création de Pour la Science, et c'est aussi le séquençage du premier génome. Hein ?
Absolument. Là, c'était le phage Phi-X-174 qui comportait 11 gènes. Mmh. Un phage, c'est un petit virus de bactéries. Hein. C'est absolument ridicule. Ça a valu d'ailleurs le prix Nobel à Frédéric Sanger, qui est un des rares scientifiques à avoir eu deux prix Nobel.
Oui. Voilà.
Et puis, ça a été le début d'une aventure absolument formidable. Hein, parce que donc, quelques années après, on a décidé le programme Génome Humain. On prévoyait à l'époque 15 ans de travaux, 3 milliards de dollars pour le faire. En fait, on a mis 20 ans pour y arriver.
Oui.
Pardon. Et aujourd'hui, On peut séquencer votre génome, Mathieu, en c'est quelques vrai. Jours pour 1000 dollars.
C'est ça, absolument. Et voir des choses qu'il faut aussi savoir interpréter. Hein. C'est toute la mesure aujourd'hui et la question éthique aussi autour de ces disciplines. 1977, c'est la naissance en Angleterre de Louis Brown, le premier bébé éprouvette. On va écouter justement un son d'archives de l'époque.
Et oui, tout va bien. Tout va bien et c'est la maman du bébé du siècle qui parle. Le bébé, c'est Mademoiselle Patricia Brown, née dans la nuit du 25 au 26 juillet 1978 à l'hôpital d'Oldham, près de Manchester. Elle pèse près de 2,7 kg à la naissance et elle dort sans aucun doute paisiblement ce soir. Madame Leslie Brown, sa maman, elle aussi d'ailleurs, malgré la césarienne. Et pourtant, Dieu sait si dans le monde entier, aujourd'hui, cette naissance a fait du bruit. C'est la première fois, en effet, qu'une femme accouche d'un bébé qui a été conçu dans un laboratoire. Patricia Brown est donc le premier bébé éprouvette du monde. Une première médicale historique réussie par une équipe de médecins anglais, le docteur Patrick Stepow et le physiologiste Robert Edwards.
Voilà, et il y a un mystère dans cette archive, c'est pourquoi Gérard Rolls parle de Patricia Brown et non pas de Louis Brown.
Je ne sais pas du tout.
Si les auditeurs ont la réponse, ils peuvent nous envoyer un message. En tout cas, c'est vrai que c'était un événement considérable à l'époque, qui a suscité beaucoup de questions. Hein, si cette technique-là utilisée a beaucoup choqué le public.
Oui, bien sûr, à l'époque, mais ça pose toujours beaucoup de questions. C'est vrai que... Voilà, la naissance de cette petite Louise Brown a ouvert la voie à beaucoup d'autres recherches et beaucoup de mises au point d'autres techniques. Et aujourd'hui, en France, c'est à peu près 3% des naissances qui sont issues d'une PMA. Alors, c'est pas forcément des bébés éprouvettes, mais voilà, donc ça pose beaucoup de questions. Tous les questions qu'on se pose aujourd'hui sur les enfants médicaments, sur la GPA, sur tout ça, c'est lié au fait qu'on a réussi à mettre au point cette technique.
Ouais, super
mais qui
babe.
A aidé énormément de parents par
c'est
ailleurs.
Ça, bien sûr. Super babe, hein, c'était le grand titre, vous le mettez justement dans la science de Evening News, oui. Ce super bébé Louis Brown, donc né à l'époque. Alors si on file comme ça à travers les décennies, il y a la naissance du web également, là, qui est un événement absolument majeur, ça s'est passé au CERN de Genève. Quelle est la différence majeure d'ailleurs entre le web et Internet? Parce qu'on a tendance à mélanger un petit peu les deux, Cécile Lestienne.
Internet, c'est le réseau informatique mondial, c'est ce qui permet à tous les ordinateurs de communiquer. Le web, c'est une application... C'est le système hypertexte du web qui vous permet là de naviguer d'un texte à l'autre, d'un serveur à l'autre, d'un ordinateur à l'autre, et qui a rendu l'Internet grand public. L'Internet avant, c'était réservé à des applications militaires ou commerciales, mais absolument pas à tout ouais. un chacun.
Donc c'est le Minitel français, au fond, qui s'est généralisé aussi à l'échelle de la planète hein.
Oui, c'est bien parce plus efficace qu'un Minitel.
Oui, mais on était quand même précurseurs
absolument,
en France, hein, parce
absolument.
Qu'on avait cet objet quotidien qu'on était les seuls quand même à utiliser à l'époque, quoi.
Absolument. Et le web a décuplé. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois qu'on ne saurait plus vivre sans le web.
C'est vrai. Alors, la question climatique, parce que là aussi, ça fait partie vraiment des grands dossiers hein, qui ont marqué ces dernières années, justement. À partir de quand on commence à en discuter du réchauffement? Il y a Valérie Masson-Delmotte là, qui signe un article...
Absolument. Pour raconter justement toute cette histoire du réchauffement climatique, en fait, le réchauffement climatique intéresse les chercheurs depuis les années 30. Mmh. Ce n'était pas du tout un sujet médiatique, en revanche. Et c'est petit à petit, il y a eu des indices, on a fait de plus en plus de mesures, et on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait un lien entre l'augmentation du CO2 et des autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère et ce changement climatique. Mais il a fallu attendre 2013, c'est quand même très récent, pour que le cinquième rapport du GIEC affirme avec 95% de niveau de confiance que les causes anthropiques du réchauffement, c'est-à-dire que le réchauffement climatique était bien lié en grande partie aux activités humaines.
2013. C'est fou quand même, hein. C'est extrêmement récent. Et
ça explique peut-être pourquoi il y a encore quelques climato-sceptiques.
Ouais,
mais...
Qu'on entend un petit peu moins quand même aujourd'hui, même si le président américain à lui seul incarne le climato-scepticisme aujourd'hui.
On voit bien, dès qu'il y a un événement climatique majeur comme il y a eu là avec les cyclones, Harvey, Irma, etc., tout de suite se repose la question. Et d'ailleurs, c'est le sujet du prochain rapport du GIEC qui va sortir en 2021.
Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces projections? Alors, si on imagine pour la science, là, dans les décennies à venir, quels sont les grands domaines, selon vous, qui risquent de faire la une?
Oh, si je vous dis, je suis sûre que je vais dire des bêtises, évidemment, puisqu'on peut pas faire de projections comme ça. Il va y avoir
Vous parlez du microbiote, par exemple. Ça va être un grand thème de recherche aussi qui va se développer probablement dans les années à venir. Il y a tout à découvrir là, dans
absolument,
ce domaine.
Ben ça c'est un petit peu la même chose que le réchauffement climatique. On connaît la flore intestinale depuis Pasteur. Et il y a encore quelques années, on ne s'y intéressait pas du tout. L'intestin était un organe caché. Et aujourd'hui, on fait 2 millions d'exemplaires avec le charme discret de l'intestin. Et c'est aujourd'hui un domaine absolument majeur de recherche qui touche beaucoup, beaucoup de choses en santé. Toutes les maladies liées effectivement à l'intestin ou à la nutrition comme l'obésité, le diabète, mais aussi à des maladies comme la dépression ou Parkinson.
Merci beaucoup en tout cas Cécile Essiette. Donc on retrouve Pour la Science avec ce numéro anniversaire en ce moment dans les kiosques 1977-2017. Et donc bon anniversaire à vous et à vos équipes. Voyage Merci. En géométrie, c'est aux éditions Le Pommier et TheConversation.com pour retrouver cet article sur les chats liquides. Passez un très bon week-end à l'écoute de France Inter. Lundi, c'est Daniel Fievé qui sera aux commandes de l'émission.